This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir avec un nouveau point sur la crise des réfugiés. On en parle dans Ailleurs dans le monde avec Michaël Thébault. La revue de presse des correspondants d'Inter. Elle passe cette semaine par Rome et Berlin avec Mathilde Imberti et Cyril Sauvageau. Musique, Mathieu Culeron à Abidjan, capitale africaine de la musique, vous le verrez. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur les pays étant sortis ou n'ayant pas ratifié l'accord de Paris sur le climat. Tout de suite, économie.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Combien d'économistes et d'historiens avons-nous reçu à ce micro qui nous disaient que l'époque de la croissance était derrière nous, que la croissance ne créait plus de richesse ni d'emploi, qu'il fallait faire notre deuil en France d'une période comme les 30 glorieuses qui avait permis à des populations entières pourtant de prendre l'ascenseur social, de s'élever toujours plus d'une génération à l'autre. L'économie est-elle encore capable de cela ? De mettre en mouvement les nations et leurs habitants. On pose la question à Edmund Phelps. Bonsoir et merci d'être au micro d'Inter. Vous êtes prix Nobel d'économie, Université Columbia aux États-Unis. Vous publiez La prospérité de masse aux éditions Odile Jacob, traduction simultanée de vos propos. Robert Wolfenstein, que je salue et que je remercie. J'ai cité Edmund Phelps, les 30 glorieuses, mais il faudrait remonter sans doute beaucoup plus loin, au 19e siècle, pour prendre la mesure exacte du décollage qu'ont connu l'Europe et les États-Unis. La question est large, je m'en excuse, mais j'en appelle à vos capacités de synthèse. Qu'est-ce qui a rendu possible un tel mouvement de prospérité?
I think what made the takeoff.
Ce qui a rendu possible justement ce décollage et cette croissance soutenue pendant tant d'années, notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais également par la suite en France et en Allemagne, ce qui a donc rendu ce décollage possible, c'était l'apparition, l'émergence, dirais-je, d'un ensemble de valeurs modernes, nouvelles valeurs qui ont remplacé les anciennes valeurs médiévales. À mesure que valeurs modernes d'individualisme, de vitalisme, d'expression de soi, à mesure que ces nouvelles valeurs ont commencé à prendre pied, à prendre en quelque sorte racine dans la société contemporaine, vous avez une population qui a de plus en plus voulu explorer, créer, inventer de nouvelles choses. Évidemment, on pouvait s'enrichir ce faisant, mais ça n'était pas l'objectif principal de cette curiosité, de cette soif de découvrir. Et cet état d'esprit a lancé un nouvel épisode dans le monde occidental dans lequel l'emploi était en soi satisfaisant, intéressant, pas nécessairement de manière, disons, pécuniaire, financière, mais cette tendance s'est poursuivie jusqu'en aux années 60, 70, peut-être au début des années 1980. Et puis, depuis cette époque, ce qu'on a constaté, c'est une baisse de la croissance des facteurs de productivité, et cela a été dû à l'affaiblissement de l'esprit d'innovation en général. Parce que, certes, il y a la Silicon Valley, c'est vrai, qui est là, qui a en quelque sorte comblé une brèche, mais elle n'a pas suffi à remplacer ces pans entiers de l'économie qui ne sont plus du tout innovants.
Donc si je vous entends et vous comprends bien, les grandes crises économiques sont, Edmund Phelps, des crises de valeur.
Yes, that's right. I think we're paying the price
now. Et nous en payons le prix durement aujourd'hui. Ce que l'on constate, c'est un retour, un repli sur les valeurs, disons, traditionnelles ou anciennes, dans lesquelles on encourage les enfants à rester à la maison, des enfants qui préfèrent rester dans l'entourage de leurs amis plutôt qu'explorer le monde et se mettre eux-mêmes à l'épreuve.
Qu'est-ce qui a, quelles valeurs ont été en crise en 2007 ou 2008? Qui est la dernière très grande crise économique, bancaire, financière qu'a connue le monde.
En 2007,
En 2007, je ne pense pas que cette crise-là se distingue particulièrement des autres sur le plan des valeurs qui auraient été ébranlées. Ce qui s'est passé ces années-là, 2007-2008, mais d'ailleurs il y avait la même chose en l'an 2000, c'était essentiellement un bouleversement financier, une grave perturbation. D'ailleurs, dans les années 1970, il y avait des pertes d'emploi dramatiques, il y avait beaucoup de mouvements sociaux aux États-Unis notamment, donc des crises comme cela, on en a traversé par le passé. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y avait pas simplement une grosse crise financière comme en 2007-2008. Il y a eu précédemment un changement d'attitude qui allait à l'encontre de l'innovation, du changement, de la recherche d'emplois intéressants.
Edmund Phelps, les valeurs sont le carburant de l'économie et les valeurs permettent à une société d'être inventive et créative. On peut le dire comme ça ?
Exactement. C'est exactement cela.
Et le capitalisme, donc, c'est d'abord et avant tout un système de valeurs, une capacité à produire du désir, une capacité à être inventif. C'est assez contre-intuitif, au fond. On se dit, c'est l'économie d'abord. Ben non, à vous lire.
Effectivement, on peut nuancer le propos. Et disons, le soutien dont jouit le capitalisme en général, ce soutien suppose en soi effectivement un certain nombre de valeurs. Mais ces valeurs-là, elles existaient déjà au XVIIe siècle et même au XVIe siècle, pendant le siècle des Lumières et même bien avant la Renaissance. Alors que, disons que le capitalisme n'est pas, si vous voulez, une invention nouvelle. En 1815, il existait déjà dans le monde occidental. Par contre, ce qui était nouveau à cette époque, c'est cette émergence d'un esprit d'innovation, vraiment nouveau.
Une question divise les économistes, en tout cas tous ceux avec lesquels j'ai la chance de pouvoir dialoguer au micro d'Inter. Je leur demande à chaque fois si le cycle d'innovation qu'on connaît aujourd'hui, disons Internet pour aller vite, est-ce que ce cycle-là sera créateur d'emplois et de richesses collectives ?
Alors, par rapport à l'Internet, en tout cas, le type d'invention ou d'innovation qu'on a vu apparaître, notamment dans les domaines, disons, manufacturiers, en tout cas ceux qui produisent des machines, cette innovation technologique a eu un effet négatif, la destruction d'emplois. Et ça, en soi, c'est déjà quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut se rappeler qu'au 19e siècle, et ce jusqu'aux années 1960, cette innovation technologique s'est manifestée surtout dans des secteurs où l'on fabriquait des biens de consommation. Or, si ces innovations technologiques augmenter la productivité, cela a réduit les prix des biens de la consommation et tout le monde en a bénéficié. Donc à cette époque-là, cette innovation-là était créatrice d'emplois. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse qui se produit. Vous avez cette innovation qui est apparue, qui a pour effet de certes réduire les prix des produits, des biens manufacturiers, des biens d'équipement, des machines. Et ce sont des biens capitaux, des biens d'équipement plutôt que des biens de consommation. Et donc cette innovation-là, certes, fait baisser les prix, mais elle a également pour corollaire de faire baisser les prix des machines fabriquées par les hommes. Donc cela tire les salaires vers le bas au lieu de les rehausser.
Est-ce que le modèle que vous décrivez dans votre livre, plus que le modèle d'ailleurs, je dirais le moment que vous décrivez dans votre livre, est-ce qu'il est historiquement fini ? Dépassé, est-ce que c'est un objet d'histoire ou est-ce que l'économie peut à nouveau retrouver la prospérité de masse ?
Évidemment, toute la question est là, et c'est la question que devrait se poser chacun d'entre nous. Pour ma part, ce que j'espère, c'est que l'État, les citoyens, que chacun d'entre nous soit amené à encourager les nouvelles générations à trouver un nouveau goût pour l'aventure, l'expérience, la découverte, l'exploration, l'innovation. Je crois que c'est cela qu'il faudrait appeler de nos voeux. Ce que j'espère, pour ma part, c'est que nous puissions éduquer la nouvelle génération, apprendre aux jeunes, leur inculquer le goût de l'innovation, de l'exploration, de la découverte. C'est cela qui avait caractérisé la jeunesse du 19e siècle et même au-delà.
Ma dernière question, malheureusement, le temps passe très vite. Les valeurs que vous décrivez, Edmund Phelps, l'envie d'aller ailleurs, l'envie d'inventer, l'envie de découvrir, le besoin même de faire ces choses-là. Est-ce que ce ne sont pas les traits qui caractérisent aujourd'hui l'élite ? Ceux qui ont la chance et les moyens de pouvoir éprouver ces sentiments et ces valeurs.
Je reviens toujours à mon 19e siècle.
Ça peut être utile.
Et toute cette période jusqu'à 1960. Mais enfin, c'est une période qui nous éclaire justement sur la question que vous me posez. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent follement à inventer de nouvelles choses, à faire des expériences. Pendant cette période-là, ça n'était pas effectivement les enfants de l'élite, c'était les citoyens ordinaires qui se livraient à ce goût de l'expérience, de l'aventure et du nouveau. Donc à l'époque, effectivement, c'était quelque chose de très démocratique. Il n'y avait pas d'élitisme, même dans l'esprit d'entreprise du 19e siècle. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, même tout en bas de l'échelle, on pouvait attirer l'attention du patron d'une entreprise si l'on avait une idée originale. Il n'y avait pas de hiérarchie qui empêchait les plus simples citoyens d'arriver avec des nouvelles idées. Et ce jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais cette économie-là, celle que j'appelle de mes voeux, ne devrait pas être le privilège de l'élite. Et ce qui est essentiel, c'est que justement, ce soit justement ceux qui ne sont pas fortunés qui puissent faire ce genre d'expérience sur le lieu de travail.
C'est un livre passionnant, La prospérité de masse, publié aux éditions Odile Jacob. Merci Edmund Phelps. Je rappelle que vous êtes prix Nobel d'économie 2006, chercheur enseignant à l'Université Columbia aux États-Unis. Je remercie aussi beaucoup Robert Wolfenstein pour la traduction simultanée de vos propos. 18h31, la revue de presse internationale. Revue de presse internationale.
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Omar Waman. Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Moscou, Claude Bruyot.
Jérusalem, Étienne Monod.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous. Là voilà la revue de presse des correspondants d'Inter avant de rejoindre Cyril Sauvageau à Berlin, direction Rome. Mathilde Imberti, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Mathilde, un nom en haut de l'affiche cette semaine, Francesco Totti.
Oui, une fois n'est pas coutume, Nicolas, amorçons cette revue de presse par du foot, car Francesco Totti a joué son dernier match sous les couleurs de l'AS Rome dimanche après 25 saisons. Et toute la presse s'est mise aux couleurs du club jaune et rouge. Grazie Capitano, titré Il Corriere dello Sport lundi, le joueur en pleine page, les larmes aux yeux. Il Messaggero, le quotidien romain, saluait un amour infini. Son rédacteur en chef écrit à Totti, tu as rendu normal ce qui à d'autres était impossible. La lumière sur toi ne s'éteindra jamais. Des adieux déchirants, multi-diffusés, le colosse romain a fendu l'armure dimanche soir devant ses fans. Maintenant j'ai peur, aidez-moi, les a-t-il suppliés. 70 000 spectateurs pleuraient à Rome dans le stade, sans compter tous ceux derrière leur télévision. La presse italienne décidément ne s'en remet toujours pas.
Allez, on passe au feuilleton politique italien maintenant. La loi électorale est enfin, Mathilde, sur le point d'être adoptée.
On rappelle les derniers épisodes. 5 décembre, la chute de Matteo Renzi, le chef du gouvernement Parti démocrate. Sa réforme du Sénat est rejetée. Le pays se retrouve avec 2 lois électorales différentes au Sénat et à l'Assemblée et ne peut pas organiser de nouvelles élections. Cela fait 6 mois que le pays vit au rythme des tractations pour parvenir à une loi uniforme et le feuilleton a pris, un tournant décisif, semble-t-il, cette semaine. Les partis font alliance, titrait La Repubblica hier, pressentant des élections à l'automne prochain. Le Parti démocrate, centre-gauche, Forza Italia, centre-droit et les 5 étoiles indéfinies sont tombés d'accord. Mais ce pacte fait des mécontents, relève Il Corriere della Sera, journal de centre-droit, car les petits partis du centre seraient désavantagés par cette loi qui prévoit un seuil de barrage à 5% des voix. De plus, avec ce calendrier anticipé, l'actuel gouvernement italien n'aurait peut-être pas le temps de faire adopter le budget. Or, selon le quotidien du Sud, Il Mattino, il faut à tout prix mettre en sécurité les comptes publics et éviter les tempêtes financières qui menacent l'Italie. Les électeurs sont donc tenus en haleine.
Et puis la presse chez vous, Mathilde, observe de très près notre président.
Oui, elle scrute les premiers pas diplomatiques du président Macron. Macron reçoit Poutine et ne fait pas de concessions. Remarquez Il Corriere della Sera mardi. Il a été très explicite sur les droits humains, souligne le premier quotidien d'Italie, un thème souvent délaissé par les autres interlocuteurs de la Russie. Les Italiens, par contre, sont plus dubitatifs sur les premiers pas, disons, maritimes du président Macron, qui veut remettre à plat l'entrée au capital des chantiers navals de Saint-Nazaire du géant Fincantieri. C'est un coup de frein, commente le quotidien économique Il Sole 24 Ore, qui fait déjà chuter le groupe naval italien en bourse.
Mathilde Imberti, France Inter à Rome, merci. Bonsoir maintenant, Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
On file à Berlin, à la une de la presse chez vous, Cyril. La révolte qui gronde autour des expulsions de réfugiés vers l'Afghanistan.
Oui, depuis fin 2016, Berlin a décidé d'accélérer les procédures avec des premières expulsions collectives de migrants refoulés. 5 charters ont déjà quitté l'Allemagne avec une centaine de demandeurs d'asile, mais la résistance s'organise. Certains lenders allemands refusent de coopérer. Le ministère de l'Intérieur a dû les rappeler à l'ordre. Des manifestations ont lieu régulièrement pour les défenseurs des migrants. L'Afghanistan est tout sauf un pays sûr, comme l'a démontré encore l'attentat meurtrier dans le quartier diplomatique de Kaboul. Le mouvement de protestation a pris une nouvelle tournure hier à Nuremberg quand des centaines d'élèves d'un centre de formation ont manifesté contre l'expulsion d'un camarade. Comme le rapporte la Süddeutsche Zeitung, les étudiants se sont accrochés violemment avec la police. Des élèves écœurés de voir les policiers faire irruption dans leur salle de classe. L'affaire fait grand bruit. Les forces de l'ordre ont dû se justifier sur les réseaux sociaux. Le jeune Afghan de 20 ans ne sera finalement pas incarcéré pour l'instant. La justice en a décidé autrement. Et à Berlin, le gouvernement temporise. On apprend ce soir que les expulsions collectives vont être suspendues pour l'instant.
Autre forme de contestation, Cyril, avec le portrait de cette militante anti-nazie d'un genre bien particulier, portrait à lire sur le site de la Deutsche Welle.
Elle s'appelle Irmela, c'est une retraitée berlinoise de 70 ans qui se définit comme une Politputze. On pourrait traduire ça en français par nettoyeuse politique. Son passe-temps préféré, c'est faire la chasse aux symboles néo-nazis, aux affiches, aux inscriptions racistes dans les rues de Berlin, mais aussi jusqu'en Pologne, en Finlande, au Luxembourg et même en France. Ça fait plus de 30 ans qu'Irmela arrache des autocollants ou repeint des pans de murs à la bombe. Jusque-là, pas de souci, elle a même été décorée de l'ordre du mérite. Mais dernièrement, une expédition lui a causé quelques soucis lorsqu'elle a repeint sur une inscription de Pegida qui disait « Merkel muss weg », Angela Merkel doit s'en aller. Or, le slogan n'est pas anticonstitutionnel, à l'inverse d'une croix gammée. Elle a donc été jugée pour dégradation de l'espace public et condamnée à 1 800 € d'amende. Le juge lui a recommandé de se trouver un autre moyen d'expression, mais la retraitée ne l'entend pas de cette oreille. Elle a décidé de faire appel du jugement.
Et pour finir, Cyril, comme partout ailleurs, la décision de Donald Trump sur l'accord climat très attendu chez vous en Allemagne.
Oui, Angela Merkel recevait ce matin le Premier ministre chinois qui a réaffirmé ici à Berlin son engagement à appliquer l'accord de Paris. L'Allemagne et l'Europe doivent assumer leur leadership sur la question climatique. C'est l'occasion ou jamais, écrit Le Spiegel. Mais le meilleur titre du jour sur le sujet est attribué au la main à un tabloïd berlinois, le Berliner Courier, qui affiche une belle image de la planète vue de l'espace avec ce titre. La Terre a un message pour Donald Trump. Fuck you.
Bah, c'est efficace, c'est court et ça marche en anglais comme en allemand. Merci beaucoup Cyril Sauvageau en direct de Berlin.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Michael, sujet dur, poignant, on parle ce soir de ce que Daesh appelle les lionceaux du califat.
Expression forgée par les dirigeants du groupe État islamique et reprise aujourd'hui par presque tous ses lieutenants. Lionceaux, vous l'avez compris, désigne des enfants, ils ont 7, 10 ou 12 ans. Des enfants qui dans la plupart des cas ont été arrachés à leur famille pour suivre un entraînement militaire d'une violence inouïe en Irak ou en Syrie, car ces lionceaux du califat sont censés devenir la nouvelle génération de djihadistes. Bonsoir Alice Serrano.
Bonsoir.
Alors heureusement, un certain nombre de ces enfants sont parvenus à fuir le groupe État islamique et vous êtes allé précisément à leur rencontre, Alice, dans deux camps de réfugiés installés au Kurdistan irakien dans le nord du pays. Et là, vous avez croisé des enfants qui, tant bien que mal, tentent de se reconstruire.
Oui, nous voici à Darkar, à la frontière avec la Turquie, dans le cabinet de Myrna, psychologue de l'ONG française Elisker. Assis face à elle, un feutre à la main, Saher dessine une maison.
Il y a combien de chambres dans ta maison ?
4. Dessine Saher, dessine pour évacuer, oublier qu'à 6 ans, lui, jeune yézidi de Sinjar, est devenu avec ses frères et sœurs esclave d'Abu Muammar à Deir ez-Zor en Syrie.
Il te frappait ?
Oui, il avait une grosse bague et il tapait sur ma tête. Le petit garçon frêle, les cheveux noirs de jais, le regard fixé sur ses chaussures, hésite. Puis les mots se bousculent dans sa bouche.
Il me frappait beaucoup, tous les jours. Il nous obligeait à lire le Coran. Il me frappait, puis il frappait ma mère aussi. Une fois, il a même cassé le bras de ma sœur Aziza. Elle est encore chez lui à Raqqa.
Et la petite fille n'a pas pu fuir avec le reste de sa famille.
Et des jeunes garçons hein, comme Saher, Myrna, la psychologue, en voit ici tous les jours. Écoutez.
Il y a des enfants choqués qui ne parlent pas. C'est à nous de les amener à s'exprimer. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont l'air d'aller bien, mais ce n'est pas le cas, on le sait. Ces enfants sont souvent victimes de chocs post-traumatiques.
Les symptômes, des cauchemars, des pipis au lit, une violence sur l'entourage, une schizophrénie aussi. Saher, lui, a besoin de parler, tout comme Assi, son grand frère, embrigadé par Daesh à 14 ans, 6 mois d'apprentissage théorique puis d'entraînement militaire avant d'être adoubé djihadiste. Ses cours, il les suit avec des centaines d'autres adolescents au nord de la Syrie, à une cadence infernale.
On se réveille tous les jours à 5 heures et on lit le Coran, puis on doit apprendre une sourate par cœur et la réciter au moment de la prière. Après, c'est la leçon de doctrine, puis on petit déjeune.
Et ainsi de suite jusqu'au soir. La moindre faute entraîne des coups de bâton et de tuyaux. 6 mois après sa libération, le dos d'Assi est encore traversé par de longues cicatrices.
Il ne parle que du djihad, des combats, de la guerre et te pousse à oublier ta famille. Tu passes ta journée dans la guerre, il n'y a pas de vie là-bas. Si tu restes avec eux, tu deviens un mort-vivant.
Et pour convaincre ces lionceaux du califat, comme ils les appellent, à sacrifier leur vie à leur cause, les djihadistes opèrent un lavage de cerveau quotidien.
Il nous disait par exemple, le djihad c'est pour Allah, vous les jeunes, allez dans l'autre vie, vous trouverez votre bonheur. Vous n'êtes pas mariés, là-bas 72 vierges vous attendent. Juste après, 15 jeunes se portaient volontaires.
Félicitations, cette nuit, ce héros, Inch'Allah, sera marié au paradis avec de jolies vierges.
Comme vous l'entendez dans cette vidéo, un discours qui fonctionne bien, très bien, notamment sur les âmes les plus fragiles.
Voilà, entraînement militaire particulièrement difficile, lavage de cerveau, entraînement éprouvant, on le comprend, mais qui diffère à Alice en fonction des zones géographiques. Adèle, par exemple, que vous avez rencontré, lui, a suivi un entraînement encore plus violent à Tal Afar, à l'ouest de Mossoul.
Et on rencontre ce garçon frêle au camp d'Essian, où il a trouvé refuge. On le découvre recroquevillé sur un matelas sous sa tente. Adèle nous regarde sans nous voir, ses mains se crispent quand il évoque à nouveau ses souvenirs dans ce camp d'entraînement. Il avait alors 10 ans.
On s'entraînait aux techniques militaires, comment attaquer, se cacher, s'allonger par terre, utiliser une kalachnikov, arrêter l'ennemi comme si c'était des peshmerga.
Et ceux qui n'y arrivaient pas ?
Ils les tuaient, comme Kassim. Ils les emmenaient à l'écart ou les abattaient sous nos yeux d'une balle dans la tête. J'en ai vu une dizaine.
« Adèle devait aussi regarder des vidéos en boucle, autre arme de propagande de l'État islamique.
On voyait comment ils tuaient les yézidis et les non-yézidis. Ils nous disaient, vous devez vous entraîner comme nous pour combattre les peshmerga. Vous devez vous aussi les décapiter.
Un entraînement en grandeur nature, parfois sur des prisonniers yézidis. Les jeunes bourreaux sont alors tirés au sort.
Moi, je n'ai jamais été désigné, mais j'ai des copains qui l'ont été et qui ont abattu des prisonniers d'un coup de pistolet ou de kalachnikov.
Aujourd'hui, Adèle va mal, de plus en plus mal. Il fait des cauchemars la nuit, il a peur, il mange difficilement, nous confie son père, désemparé. Depuis qu'il s'est enfui de cet enfer, il y a un an, il n'a pas vu un seul psychologue, quasiment inexistant dans les camps. L'Irak est aujourd'hui trop accaparé par sa reconstruction pour panser les plaies d'une génération qui semble perdue.
Voilà, édifiant reportage signé Alice Serrano de retour du Kurdistan irakien. Merci infiniment Alice.
18h44, on continue d'évoquer, Michael, le sort des réfugiés avec cette nouvelle mobilisation du GISTI.
Le GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés, déjà plus de 40 ans d'existence, de militantisme, d'action, d'explication, avec toujours cette même volonté d'être aux côtés des exilés, des sans-papiers, de toute personne immigrée, combat pour l'égalité des droits des étrangers, et avec toujours cette certitude, Nicolas, que la liberté de circulation reste la seule alternative réaliste pour mettre fin à des situations souvent dramatiques. Et c'est ce principe fondateur que le GISTI va donc rappeler lundi prochain, le 5 juin. Ce sera lors d'un grand concert au Trianon, boulevard de Rochechouart à Paris. Très belle affiche, je vous la donne en bref. Arthur Hache, Gaël Faye, Bibi Tanga, Patrick Chamoiseau ou les Têtes-Raides, ils ont tous répondu présents et pour une simple raison, l'urgence à agir pour ces centaines de milliers de réfugiés bloqués au seuil de l'Europe. Car passé la grande prise de conscience internationale de septembre 2015, eh bien plus rien ou presque, et même au contraire, on l'a vu ici même, une Europe qui se barricade, qui se ferme, inadmissible pour la présidente d'honneur du GISTI, Danielle Lechec.
Ça fait quand même extrêmement longtemps que les choses durent. Et c'est vrai que ces derniers temps, depuis 2 ans, disons, avec ce qu'on a appelé la crise migratoire, tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience. Une prise de conscience de ce que la politique de fermeture des frontières oblige tous les migrants, qu'ils fuient la misère, qu'ils fuient la guerre, qu'ils fuient la dictature, oblige tous les migrants à prendre des risques toujours plus grands pour arriver et trouver refuge en Europe. Et malgré cette prise de conscience à la fois médiatique et politique, les réponses de l'Europe et donc des pays européens restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on a bien vu il y a 2 ans, quand tout d'un coup il y a eu un afflux important, une prise de conscience, une montée médiatique, des morts et des naufrages, qu'est-ce qu'ont fait les pays européens? C'est d'abord de dire on va renforcer les moyens de Frontex. Frontex qui est cette agence dont l'objet et d'intercepter, d'interdire, les traversées, etc. Donc renforcer les moyens de Frontex, ça veut dire obliger les gens à trouver des itinéraires différents et qui sont toujours aussi risqués. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est ce fameux accord assez honteux avec la Turquie, qui pour l'instant a marché entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, parce que qu'est-ce que ça veut dire à marcher? Ça veut dire que pour l'instant, la Turquie retient les Syriens, notamment, et quelques autres nationalités.
Pourquoi honteux? Expliquez-nous.
Ben, honteux, parce que traiter avec la Turquie aujourd'hui, c'est quand même traiter avec des dictatures et compter sur des pays dictatoriaux pour faire la police pour le compte de l'Europe, mais il y a eu des choses encore plus honteuses. Hein. Je veux dire qu'on a aussi traité avec Kadhafi, parce que on veut qu'ils tarissent les flux migratoires. Et tarir les flux migratoires, ça veut dire qu'ils empêchent les gens de sortir, de partir de chez eux, et ça veut dire aussi que nous renonçons complètement à la protection des réfugiés, d'abord parce que nous n'en voulons pas chez nous, et parce que là où on les laisse, ils ne seront pas bien protégés. Je ne parle même pas de ce qui se passe en Libye et qui est apocalyptique.
Oui, apocalyptique, on l'a vu ici même hein, avec nos envoyés spéciaux. Alors la faute à qui? Eh bien d'abord aux responsables politiques européens.
la responsabilité des hommes politiques, de la classe politique, est importante parce qu'il y a un espèce de cercle vicieux. La classe politique a un discours qui dit qu'il y a un risque alors économique, un risque pour la sécurité, on connaît tout ça, un risque aujourd'hui pour l'identité. Et pour le faire, il s'appuie sur ce que pense théoriquement l'opinion. Mais on voit bien comment ici un cercle vicieux se met en marche, parce que, à force d'entendre ce discours, l'opinion, elle est aussi confortée dans cette idée. Et on l'a bien vu au moment où Angela Merkel a dit « nous allons les recevoir », il y a eu un élan en Allemagne assez intéressant. Et c'est vrai que si les autres pays avaient le moins du monde suivi, Angela Merkel n'aurait sans doute pas été obligée de faire marche arrière comme elle l'a fait.
Et on sait effectivement à quel point l'exemple allemand a peu convaincu le reste de l'Europe, d'où la nécessité bien sûr pour Daniel Lechac de marteler aujourd'hui encore cette indispensable liberté de circulation.
Notre analyse, c'est que d'abord d'un point de vue éthique, on ne peut pas se satisfaire d'une liberté de circulation qui est réservée à ceux qui ont la chance d'être nés dans un pays préservé de la misère et de la terreur. Parce que c'est vrai que là, une bonne partie du monde voyage librement. Donc nous ne pouvons pas nous contenter de cette politique qui assigne à résidence ceux qui n'ont pas cette chance et qui en plus, évidemment, est responsable de milliers de morts. Mais en même temps, nous avons un discours, non pas de réal politique, mais un discours réaliste. C'est-à-dire que ce que nous disons, c'est que cette politique, elle est vouée à l'échec. D'ailleurs, on le voit bien. Les gens, ils arrivent quand même avec des catastrophes humanitaires une fois qu'ils sont là et qu'il n'y a aucune solidarité entre les États européens pour que ça aille mieux. Donc c'est une politique qui est vouée à l'échec et par conséquent l'idée que le Justi défend, mais aujourd'hui nous ne sommes plus seuls du tout à défendre cette idée, c'est qu'au lieu d'avoir une politique fondée sur la fermeture des frontières, il faut avoir une politique fondée sur le principe de la liberté de circulation et s'interroger sur la façon dont on peut accueillir.
La présidente d'honneur du Justi, Danielle Lechac, et donc je vous rappelle un grand concert en faveur de cette liberté de circulation, c'est lundi prochain au Trianon à Paris, à partir de 17h, et toutes les infos pratiques, évidemment, sur franceinter.fr.
Merci Mickaël Thébault.
Hey, wake up!
No!
Un jour dans le monde.
What?
Nicolas Demorand.
Oh my God!
Center.
18h50, direction la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan, qui depuis l'indépendance du pays en 1960 reste la capitale de la musique en Afrique. Mathieu Culeron, bonsoir.
Bonsoir.
Le pays attire les artistes de tout le continent, Mathieu.
Oui, des artistes, mais aussi des grosses maisons de disques, et notamment des majors comme Universal et Sony, qui ont flairé l'énergie et les opportunités. Un pays qui a toujours possédé les meilleurs studios, les meilleurs musiciens de la région, et surtout qui, depuis le développement d'Internet, ouvre des possibilités inédites de diffusion de la musique dans la région. Exemple, en 2015, la Côte d'Ivoire comptait 7,5 millions d'abonnés à Internet, et donc autant de gens connectés aux plateformes de diffusion en ligne. José da Silva a bien remarqué ce phénomène et a monté, il y a un an et demi, le premier bureau de Sony en Afrique de l'Ouest, à Abidjan, une capitale qui attire de plus en plus le business de la musique.
Historiquement, la Côte d'Ivoire a toujours été une plateforme culturelle pour l'Afrique de l'Ouest. Tous les grands artistes africains venaient à Abidjan parce que c'était le lieu où il fallait être. C'était là où il y avait tous les médias, où il y avait les studios, des bons musiciens. Les artistes se retrouvaient ici. C'est comme ça qu'est parti d'ici Salif Keïta, Mori Kanté et d'autres.
Vous n'êtes pas les seuls, Sony, à vous installer ?
Non. Avant nous, déjà, il y avait Universal qui s'était installé. Et donc je sais que d'autres sociétés aussi veulent venir. C'est clair que par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Ouest, ici il y a une classe moyenne qui a les moyens, qui peut aller voir un concert à un prix raisonnable. Donc ici un concert se fait, le billet en général est à 10 000 CFA, qui représente un peu plus de 10 euros. Quand tu sais qu'au Cameroun ou la Guinée, c'est des billets à 2 euros ou 3 euros. Donc on est dans une autre économie ici, mieux pour l'industrie musicale et aussi pour l'artiste. Quoi.
Voilà la Côte d'Ivoire, carrefour pour la musique en Afrique de l'Ouest, mais pas seulement, plus largement pour tous les artistes africains, Mathieu.
Oui, en effet, pas seulement les artistes ivoiriens comme par exemple Alpha Blondy ou Tikenja Fakoly, mais aussi tous les grands artistes africains qui ont connu ensuite une carrière internationale. Ce fut le cas du chanteur malien Salif Keïta, l'un des artistes les plus respectés en Afrique.
Ma carrière a débuté au Mali, mais pour aller dans d'autres pays tels que France, les États-Unis, le Gabon, la Sierra Leone, le Libéria, ça, c'est à partir d'ici. Quand je suis venu ici, je suis venu avec les ambassadeurs internationaux. C'était une formation indépendante et libre. Donc on pouvait voyager comme on veut.
Est-ce que la raison aussi, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'infrastructures, des studios?
Tout à fait, parce qu'ici, il y avait quand même les Anangos, les Nigériens qui produisaient des artistes. Et il y avait aussi Madame Ourouk qui avait une usine de pressage de disques et un studio. Donc c'est quand même l'endroit où ça se passait, quoi. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays phare qui influençait la sous-région. Donc c'était pas étonnant.
Le Malien Salif Keïta, mondialement connu, il a débuté sa carrière à Abidjan, une ville, Mathieu, qui a toujours mis l'accent sur la culture, mais ce n'était pas gagné. Hein.
Oui, car à l'époque, la radio, la télévision d'État étaient les seuls à pouvoir diffuser de la musique et donc les seuls à pouvoir censurer la parole de certains artistes. Tikenja Fakoli a commencé sa carrière à cette époque.
Le lendemain de l'indépendance, notre premier dirigeant a compris l'importance de la culture. Ce sont des artistes comme Salif Keïta, Mori Kanté, Koffi Olomide. Tout le monde est passé par ici pour se faire connaître dans le reste de l'Afrique. Donc ça a fait que Abidjan est devenu un carrefour de la culture à un moment. Et puis bon, ça a continué. Et puis aussi, il y a eu la créativité des artistes. Bon, ça n'a pas été facile. Hein. Entre-temps, il y a la corruption qui est rentrée en jeu. À l'époque, pour passer à la radio ou à la télé, il fallait donner un peu d'argent aux réalisateurs. Ah oui, nous avons vécu ça. Quand j'allais à la télé, moi je disais, je vais chanter Manger Krassi, et il y a le réalisateur qui disait, non, tu ne peux pas chanter ça. Voilà. Et donc on a été victime de situations comme ça. Cela ne n'a pas empêché cet album de s'imposer comme la première vente pendant 2 ans en Côte d'Ivoire.
Allez, dis aux hommes politiques.
Tikenja Fakoli, l'une des grandes voix de la musique ivoirienne, résultat de l'incroyable dynamisme musical d'Abidjan. Merci Mathieu Culeron.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
En se retirant des accords de Paris, Washington risque de s'isoler un peu plus encore.
Tout de suite de l'animosité contre Donald Trump, Nicolas. Non, Nicolas, les États-Unis ne seront pas isolés s'ils se retirent des accords de Paris, des accords d'avril 2017 sur le réchauffement climatique, dit accord de Paris. Ils rejoindront fièrement deux pays qui, eux aussi, s'en sont retirés, le Nicaragua et la Syrie. Donc, on trouve d'un côté 194 parties signataires, dont par exemple la Corée du Nord, et de l'autre, trois pays non signataires, les États-Unis, le Nicaragua et la Syrie. Je vous laisse imaginer l'embarras des diplomates américains à la seule lecture de cette courte liste. Maintenant, vous pouvez ricaner, Nicolas, d'autant que plus que si le Nicaragua a refusé de signer les accords du Paris, ce n'est pas parce que son président, Daniel Ortega, serait climato-sceptique, c'est exactement l'inverse. Si le Nicaragua n'a pas signé, c'est parce qu'il estimait que les accords de Paris n'étaient pas assez contraignants, alors que son pays est listé comme l'un de ceux qui seront le plus affectés par le réchauffement climatique. Donald Trump, lui, avait tweeté assez fameusement d'ailleurs en 2012 que, je cite, cette histoire de réchauffement climatique avait été inventée par et pour les Chinois, histoire d'affaiblir les États-Unis. Il avait dû ensuite expliquer qu'il s'agissait bien sûr d'une blague.
Pour la Syrie, Anthony, on imagine que c'est la guerre qui a empêché le gouvernement de signer ?
Oui et non, mais oui, bien sûr, parce que d'une part, le gouvernement syrien faisait et fait toujours l'objet de sanctions qui empêchent les ministres de Bachar el-Assad de voyager en Europe ou aux États-Unis. Ensuite, parce que pour signer, il fallait se donner des objectifs nationaux de dépollution et donc collecter des données climatiques. Or, c'est tristement impossible en Syrie. Et non, parce que d'autres pays en guerre ont signé, comme l'Irak, le Yémen ou même la Libye. Maintenant, la question est plutôt de savoir s'il est si grave que les États-Unis se retirent de ces accords. D'abord, il faut comprendre que si ça s'appelle les accords de Paris et pas le traité de Paris, c'est justement pour ménager les États-Unis. Barack Obama savait parfaitement à l'époque qu'il n'obtiendrait jamais l'approbation des 2/3 des sénateurs américains nécessaires pour ratifier un traité international. Le monde a dû se plier à cette contrainte et signer des accords qui sont donc moins contraignants juridiquement. Ensuite, ce n'est pas la première fois que les États-Unis font le coup, figurez-vous. C'est même une habitude chez eux. Les États-Unis signent rarement et ne ratifient quasiment jamais, et ce depuis près d'un siècle. Par exemple, les États-Unis n'ont pas ratifié, à l'issue de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles. C'est tout au long que ça puisse paraître, c'est vrai. Donc la création, qui était leur idée pourtant, de la Société des Nations, la SDN, ancêtre de l'ONU. Pas plus que les conventions de Genève de 1967, que celle sur les droits de l'enfant, que le traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, que celui instituant la Cour pénale internationale. En clair, ne pas ratifier les accords de Paris, ce n'est pas l'exception, c'est la règle.
Alors pourquoi s'en offusquer alors?
D'abord parce que c'est pas parce que les États-Unis se comportent en cow-boy depuis toujours qu'il ne faut pas le leur reprocher. Ensuite parce que d'autres pays, comme les Philippines, l'Indonésie, voire l'Inde, pourraient en profiter pour se retirer aussi. Mais encore une fois, pour tout vous dire, ce retrait des États-Unis est peut-être aussi une chance. Encore une fois, à cause des États-Unis, le texte des accords s'est tout de même affadi et les objectifs ont été dilués. Maintenant que Washington a l'intention de prendre le large, une fois de plus, les autres signataires vont peut-être pouvoir enfin avancer plus loin et plus vite.
Anthony Bélanger, merci. Le téléphone sonne ce soir sur les Beatles, 50e anniversaire du mythique, du fantastique album Sgt Pepper's. Appelez-nous, intervenez, partageons ensemble des souvenirs. Quelle est votre chanson préférée des Beatles? Rude question ça, Anthony. Hein. Quelle est votre position dans le débat? John Lennon, McCartney, bref, on ouvre tous ces lourds dossiers à 19h20. 01 45 24 7000, le journal à suivre.